Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 et bon appétit, il est midi et demi.
Europe Midi Weekend.
Lénaïque Monnier.
Cacophonie et désordre jusqu'au bout du bout. Les démons des députés sont ressortis tard, jusqu'à minuit. Après deux semaines de débat, l'article sur le report de l'âge de départ à la retraite n'a pas été examiné. La réforme part donc au Sénat. Nous entendrons l'analyse de l'invité d'Europe 1, le politologue Jérôme Sainte-Marie. Camailleux, Koukaï, Sand Marina et maintenant les galeries Lafayette. Les 163 des magasins vont tous fermer. Alors pourquoi ces enseignes très marquées années 90 et de moyenne gamme disparaissent-elles à petit feu? Ce sera notre dossier du jour. Pierre Palmade évitera la prison. Il est assigné à résidence dans le service addictologie de l'hôpital de Villejuif sous bracelet électronique. Les langues autour de lui commencent à se délier. Nous y reviendrons bien sûr. Le bruit des bombes, la peur au ventre, l'absence des proches, le quotidien des Ukrainiens est bouleversé depuis quasiment un an. La députée ukrainienne Lesia Vasilenko était l'invitée d'Europe 1 ce matin. Nous l'entendrons et nous serons également sur le terrain à Kramatorsk. Et puis nous saluons évidemment les vacanciers de la zone C. Quelles sont vos conditions de circulation? On verra ça. Et puis nous rejoindrons l'envoyé spécial d'Europe 1 à Méribel pour les mondiaux de ski. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une tendance météo, Valérie Darmon.
Eh bien, grande douceur sur le sud au soleil avec des maximales entre 15 et 18 degrés, localement 19 à 21 sur les régions méditerranéennes et le sud de l'Aquitaine, et 11 à 15 au nord, toujours nuageux.
Et météo complète avant 13h. Les débats sur la réforme des retraites s'achèvent donc dans la confusion à l'Assemblée nationale. L'examen du texte se poursuivra au Sénat. Alexandre Chauveau, comme elles ont commencé, sont terminées comme elles avaient commencé, dans une ambiance absolument électrique.
Oui, minuit pile, Yael Braun-Pivet suspend définitivement la séance.
Conformément à l'ordre du jour arrêté ce matin par la conférence des présidents, nous allons maintenant interrompre l'examen du projet de loi.
Dans une ambiance cacophonique, la NUPES entonne le chant des Gilets jaunes avant de donner rendez-vous dans la rue. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée.
Nous regrettons fortement qu'un débat d'une telle ampleur et d'une telle importance pour les Français et les Françaises ne puisse se poursuivre et aller jusqu'à son terme, puisque le gouvernement a décidé de bloquer l'Assemblée nationale. Alors, ça sera la rue, les millions de manifestants qui, dès le 7 mars, je l'espère, bloqueront ce gouvernement.
La NUPES qui s'est déchirée sur la stratégie des Insoumis de ne pas retirer leurs amendements pour pouvoir débattre de l'article 7. La majorité, elle, accuse évidemment la gauche d'obstruction. Éric Woerth, député Renaissance.
Sous l'avalanche d'amendements déposés par l'extrême gauche, on n'a pas pu aller jusqu'au bout du texte. On le savait depuis hier, mais c'était évidemment une déception.
Et le texte sera donc examiné au Sénat, en commission d'abord, à partir du 28 février.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, la gauche qui va donc miser sur la pression de la rue, mobilisation le 7 mars. Mais la CGT appelle à une grève reconductible dans les raffineries dès le lundi 6 mars. Bonjour Jérôme Sainte-Marie.
Bonjour.
Sondeur, politologue, président de Polling Vox. Alors j'imagine que vous avez regardé avec attention ces débats. À titre professionnel, vous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette semaine, de ces 10 jours plutôt?
Un décalage complet entre ce qui se passe dans l'enceinte parlementaire par rapport à ce que ressent l'opinion. C'est-à-dire qu'il y a une constance ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est que l'opinion rejette clairement cette réforme. Ça s'est même renforcé en réalité ce rejet au cours des semaines. Et là, on a une impossibilité à traduire dans le cadre républicain, à traduire cet état de l'opinion. C'est-à-dire que les oppositions sont à ce point divisées entre elles qu'elles ne peuvent pas se laisser porter par ce courant d'opinion. Donc c'est ce contraste, si vous voulez, entre les institutions républicaines et l'opinion publique qui me paraît le plus frappant.
Et on imagine que l'opinion publique a dû être assez surprise également de ces passes d'armes auxquelles on a assisté pendant toute la semaine. Notamment hier soir, on a entendu le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il a pris une dernière fois la parole avant que les débats sur le projet ne partent au Sénat. Il était très en colère, il s'en est pris aux députés LFI. Jérôme Sainte-Marie, je propose qu'on l'écoute et puis vous me direz après ce que vous en pensez.
Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme.
Alors Jérôme Sainte-Marie, on a l'impression que peut-être pour l'ensemble des Français, le sujet des retraites passe après justement ces prises de bec.
Non, je ne crois pas, sincèrement. C'est un sujet extrêmement concret, vous savez. Tout le monde, quand il y a une réforme des retraites, c'était le cas déjà en 2010 ou en 2003, les gens regardent très, très concrètement comment ça, ça va les affecter. Donc c'est ça tout le problème, d'ailleurs, qu'à la NUPES, c'est qu'ils se sont fait plaisir, si veut se dire, par une certaine violence verbale, mais à la fin des fins, ils n'ont pas voulu voter les textes appelant, par exemple, à un référendum ou les motions de censure. Et ça, ça va leur poser un problème, parce qu'il y a des millions de personnes qui sont très motivées contre cette réforme, des millions de personnes qui, parfois, ont perdu, du fait de, leur, de journée de grève, de l'argent, qui sont allés manifester et qui se sont confrontés à l'absence totale de solutions stratégiques de la part des syndicats d'une part, de la NUPES de l'autre. Donc je pense que la facture va être élevée pour la NUPES, non seulement parce que les gens n'aiment pas le comportement, comment dirais-je, virulent, on va dire ça au minimum, dans l'Assemblée nationale, les gens n'aiment pas ça du tout. Mais en plus, tout le monde comprend bien que la NUPES est d'autant plus éloquente qu'elle n'a aucune solution stratégique, puisqu'elle refuse de voter les textes, elle refuse d'être majoritaire contre le gouvernement. Je pense que ça va se payer. Et puis ailleurs, les appels, quand vous êtes parlementaire, en appeler directement à la rue est toujours un pari, d'un point de vue républicain, un peu risqué.
Alors, est-ce que ça va laisser des traces également, Jérôme Sainte-Marie, chez LR, hein, on a appris ce midi qu'Éric Ciotti avait démis Aurélien Pradier de son poste de vice-président. Est-ce que c'était prévisible?
En tout cas, c'était annoncé. C'était annoncé. C'est quand même une fragilité supplémentaire pour LR, dont quand même beaucoup d'électeurs regardent, sont allés soit du côté de Macron, soit du côté de Le Pen. On va avoir ensuite un débat sur l'immigration, où là aussi, la tentation sera très forte pour certains députés LR de voter avec le Rassemblement national. Donc je crois que les souffrances de LR ne sont pas finies. En fait, pour l'instant, il n'y a que deux vainqueurs. C'est d'une part quand même le camp gouvernemental, qui réussit à faire passer son texte et qui, pour tous les gens un peu réformateurs à droite, semblera conforté. Et puis par ailleurs, bien entendu, c'est le Rassemblement national qui en profite.
Eh bien, merci beaucoup à Jérôme Sainte-Marie d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes sondeur, politologue et président de PollingVox. Alors, on l'a bien compris, hein, le contexte politique et social est extrêmement tendu. Le contexte économique l'est tout autant, avec un secteur qui est grippé, c'est celui de l'habillement. Il y a eu la fermeture de Camailleux, le redressement judiciaire de Koukaï, de Gosco, de Grosport, d'André, de Pimki. Là, c'est au tour de San Marina d'être menacé. 163 magasins de chaussures qui vont fermer ce soir avant une probable liquidation judiciaire lundi. De quoi laisser les Français perplexes.
Tout ferme, c'est vraiment dommage.
Ça devient dramatique, tous ces magasins qui ferment, et je ne sais pas où est-ce qu'on va aller.
Je trouve ça dommage qu'on perde de plus en plus de marques, de franchises. Je me demande ce qui va nous rester après comme choix.
C'est toujours triste, parce que ce sont des enseignes qu'on connaît depuis longtemps, hein, et qu'on ne comprend pas toujours la stratégie pour en arriver là.
Alors justement, on va essayer de la comprendre, cette stratégie. Bonjour Geoffrey Branger.
Bonjour.
Comment on explique cette hécatombe?
Eh bien, il y a plusieurs raisons, mais selon Yann Rivoallan, président de la Fédération Nationale de Prêt-à-Porter Féminin, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin, ces entreprises n'ont surtout pas su s'adapter au nouveau marché.
Le monde a changé et ces marques n'ont pas su changer au rythme de la société au cours des 20 dernières années, avec un facteur majeur qui est celui de la transition numérique. Et donc ces sociétés n'ont pas su, à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur Internet et dans l'expérience en boutique, suivre justement ce changement.
Et oui, parce que nos modes de consommation ont énormément évolué depuis quelques années. On achète de plus en plus en ligne. Les ventes ont progressé de 14% en 2022. C'est presque 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires, tout simplement du jamais vu. Et puis, les achats de seconde main cartonnent, notamment avec l'application Vinted. Ces évolutions de consommation sont d'ailleurs accélérées avec la crise du Covid. Si on ajoute à tout cela la concurrence d'enseignes comme H&M, Zara ou encore Primark qui enchaînent les collections à petit prix, nos marques de milieu de gamme n'ont pas la place de se développer. Alors, Yann Rivoallan l'annonce, la tourmente pour le prêt-à-porter n'est pas terminée.
Alors il y a évidemment en fait d'autres marques qui vont souffrir. On va assister, je le crains, dans ces 3 prochains mois à d'autres sociétés aussi qui risquent de disparaître ou au minima d'être en redressement judiciaire.
D'autant qu'avec l'inflation, les Français ont réduit leur budget habillement. Selon l'Institut français de la mode, les ventes en 2022 n'ont toujours pas rattrapé les chiffres d'avant Covid.
Merci à Geoffrey Branger. Et puis on a également appris que les 26 magasins Galeries Lafayette allaient être mis sous sauvegarde du tribunal de commerce. Leur propriétaire, Michel Ohayon, qui est aussi celui de Camailleux et de Gosport, assure que la situation est saine et qu'il s'agit simplement de les protéger. Midi 39 sur Europe 1, l'autre grand titre de de l'actualité, c'est la mise en examen de Pierre Palmade et son placement sous bracelet électronique à l'hôpital. Et surtout, les langues qui commencent à se délier. Nos confrères de CNews nous indiquent que Pierre Palmade aurait insisté pour conduire lui-même, alors que l'un des deux passagers lui proposait de le faire. En attendant, l'humoriste est placé sous contrôle judiciaire avec une assignation à résidence au sein d'un service d'addictologie à l'hôpital. Ça n'empêchera pas l'instruction de débuter, évidemment. Les prochaines étapes avant le début du procès seront longues. Voilà ce qu'explique Philippe Courtois. Il est avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route.
Enfin, l'instruction va débuter, les expertises vont avoir lieu. Il faut comprendre pourquoi il y a eu ce coup de volant sur la gauche. Pourquoi est-ce qu'il y a eu de la vitesse? Quel était son comportement? C'est le rôle des expertises. Ça va être long, très long, mais au moins cela va débuter. L'instruction dans ce genre de dossier, c'est 2 ans à 3 ans avant d'avoir un procès. Il va y avoir des expertises également psychiatriques sur sa situation. Pourquoi est-ce qu'il avait conscience? Comment il peut être traité? Quelle serait la réponse pénale adaptée? La question va être posée au psychiatre, un expert qui va l'examiner. Ça va être très long. C'est des moments très longs, mais c'est important. Pour une fois, c'est pas la sanction qui va ramener quoi que ce soit pour la famille. C'est véritablement comprendre ce qui s'est passé et aussi attendre ce procès pénal. C'est encore des étapes très, très douloureuses pour chacun des membres de la famille, aussi pour le prévenu, bien sûr, j'en doute pas. Sauf qu'il y en a un qui l'a cherché par un acte volontaire au départ et d'autres, malheureusement, qui ne demandaient rien du tout.
Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route, au micro Europe 1 de Chloé Lagadou. Une marche blanche organisée à Brest en hommage à Elena Cluyou au lendemain de ses obsèques. Le corps calciné de la jeune élève infirmière avait été retrouvé une semaine plus tôt dans une forêt du Finistère. Portée disparue après une soirée en boîte de nuit à Brest. Les circonstances de sa mort restent encore mystérieuses à ce stade.
Europe Midi Weekend, Lénaïque Monnier.
L'heure n'est plus au dialogue avec Vladimir Poutine. À la conférence sur la sécurité de Munich, Emmanuel Macron a estimé que la Russie portait l'entière responsabilité des effets calamiteux de la guerre en Ukraine. L'agression russe doit échouer, a déclaré le chef de l'État, en encourageant à intensifier le soutien envers l'Ukraine. Le tout est de savoir quand et s'il y aura une sortie de la guerre. La députée ukrainienne Lesia Vasilenko était l'invitée d'Europe 1 ce matin.
Seule chose qui peut terminer, qui doit être finie, c'est l'agression des Russes. Donc, dès que les soldats russes sortent du territoire ukrainien, on peut commencer à envisager comment est-ce que cette guerre sera finie. Mais ce ne sera pas assez, je dis tout de suite que ce ne sera vraiment pas assez, juste... la déoccupation des territoires ukrainiens et que les armées russes quittent le territoire ukrainien, non.
La députée ukrainienne Lesia Vasilenko. Et pour la population sur place, évidemment, la situation devient de plus en plus, difficile avec la pression de l'armée russe et les bombardements quasi quotidiens. La capitale régionale de Kramatorsk se vide progressivement de ses habitants. Reportage sur le grand marché de la ville de Nicolas Tonev, l'envoyé spécial d'Europe en Ukraine.
La musique dans les allées extérieures est un leurre. Sous les halles, les étalages de fruits et de légumes succèdent à la crèmerie, aux vêtements. Dans la même morosité, peu ou pas de clients. Dimitri le boucher découpe ses côtes de porc dans la déprime.
C'est faible. On a perdu de 40 à 50% des ventes. Le moral, il est comme chez tout le monde. On s'habitue à ça.
À ses côtés, Valentina, vendeuse de l'art.
Il y a peu de gens. Ils sont partis ou ont été évacués. Les soldats achètent, oui, mais pas beaucoup.
Pas beaucoup, sauf un produit très particulier. Les couteaux, c'est la bonne affaire d'Anton avec sa collection de lames bien exposée.
10 euros plus, ça dépend.
De préférence, ceux qui ressemblent à des armes pouvant servir à la guerre.
Le reporter d'Europe 1 en Ukraine, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev. L'actualité à l'étranger, c'est également le terrible séisme. Il y a plus de 10 jours en Turquie et en Syrie, plus de 7 millions d'enfants se retrouvent en grande difficulté, nous apprend l'UNICEF. Beaucoup sont désormais sans abri, privés d'accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité. Nombre d'entre eux vivent dans des camps de fortune avec leurs familles. Ils sont plus de 3000 rien que dans la région de Gaziantep, dans le sud de la Turquie, où s'est rendu Wilfried Deville. Pour Europe 1.
Dans ce camp de rescapés, une grande tente jaune tranche avec les autres abris de fortune installés en urgence. À l'intérieur, des dizaines d'enfants en train de jouer, de dessiner, un espace essentiel selon Serkan, il est psychologue.
Ce sont des enfants. Tout ce qu'ils veulent, c'est jouer, s'amuser. Ils ont besoin de jouer. Au départ, ils avaient peur. Aujourd'hui, ils se sentent bien mieux.
Des enfants qui ont besoin d'oublier la catastrophe, comme cette petite fille qui raconte le séisme.
Une
On a quitté la maison, mais je ne sais pas où sont mes sœurs. Elles ont disparu. Depuis, je ne ressens rien. Je suis perdue.
Dilara lui prend la main pour l'emmener jouer. La psychothérapeute évoque aussi les bénéfices d'un tel espace pour les familles.
Beaucoup de familles ont retrouvé le sourire. Il y a des parents qui ramènent leurs enfants pour qu'on leur mette du maquillage. Ils veulent inciter les enfants à jouer. Ils participent même eux aussi aux activités.
Une jeune fille court après son frère, une poupée à la main, et disparaît derrière une tente en riant. Nourdaghi, Wilfried de Villers, Europe 1.
En Turquie, où il y a parfois des miracles, un homme de 45 ans a été extrait hier d'une montagne de débris. Il avait passé 278 heures dans les décombres. Il est quasiment 1h moins le quart sur Europe 1. Vous restez avec nous. Dans un instant, on vous dira quelles sont vos conditions de circulation. D'ailleurs, on souhaite au passage de bonnes vacances à la zone C. Et puis, nous verrons que pour le ski, il y a les Alpes où s'achèvent les mondiaux. Mais il y a également les Vosges comme destination très prisée. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Midi Weekend.
Lénaïque Monnier. Il est midi 48 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est sans doute l'heure pour vous de faire une petite pause casse-croûte ou de nous écouter sur la route des vacances, puisqu'aujourd'hui l'Île-de-France et la région Occitanie viennent gonfler les rangs des vacanciers. Bonjour Romain Biteau.
Bonjour.
On imagine que ça se ressent sur le trafic. Hein.
Oui, Bison Futé classe la journée en rouge dans le sens des départs. La région Auvergne-Rhône-Alpes est concernée et particulièrement la route vers les stations des Alpes. L'A43 entre Chambéry et Lyon cumule 120 km de bouchons. Circulation rendue difficile, voire très difficile dans les deux sens. Ça sera le cas jusqu'en fin de journée avec des régulations de trafic au niveau des tunnels. La circulation fortement ralentie aussi entre Chambéry et Albertville. 10 km de bouchons actuellement, des perturbations qui devraient durer jusqu'en fin de journée. Autre axe touché par les départs en vacances, l'A6 entre Paris et Beaune. Le trafic est toujours légèrement ralenti, mais ça devrait un peu plus rouler à partir de 13h. Enfin, soyez vigilants cet après-midi si vous roulez sur l'autoroute A7. La circulation va se densifier en direction du sud.
Merci beaucoup Romain Biteau. En tout cas, sur Europe 1, on vous accompagne évidemment avec nos programmes tout au long de la journée. Et pour vos vacances au ski, en tout cas, une chose est sûre, vous avez l'embarras du choix, les Pyrénées, les Alpes, le Jura et même les Vosges. À Gérardmer, on s'attend à faire le plein. Le reportage de Tatiana Gezelman pour Europe 1.
Casque de ski vissé sur la tête, Noah et Lola dévalent les pistes bleues à toute vitesse.
C'était super. Franchement, je me suis éclatée.
C'était génial. Avec au matin les cours de l'ESF sur les pistes et tout, c'est trop bien.
Il faut dire que la neige est enfin là. Après un début d'hiver difficile, 30 cm en moyenne sur la station, Aurélie, la maman, ne regrette pas d'avoir fait 500 km de route depuis Valenciennes pour venir dans les Vosges.
On voulait passer un petit moment tous ensemble et on a bien réussi cette semaine avec le soleil. Et c'est une station qu'on recommande en tout cas.
Une station de moyenne montagne, réputée pour son ambiance familiale et ses prix abordables. 31,50€ pour un forfait journée complète, de quoi attirer les touristes.
On trouve qu'il y a un peu plus de monde que par rapport aux années précédentes.
Même s'il se refuse à donner des chiffres, Benoît Perrin, le directeur de la station, le confirme, les réservations battent leur plein.
Pour l'instant, la fréquentation au rendez-vous. Et les réservations sont encourageantes pour la semaine prochaine.
Mais avec un mercure qui devrait dépasser les 15 degrés la semaine prochaine, la neige risque de disparaître à nouveau. Gérardmer, Tatiana Geiselman, Europe 1.
Et pour les mondiaux de ski, il faudra grimper un petit peu plus haut. Nous irons retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1 à Méribel, Axel May, dans un instant. Mais avant cela, on va voir avec Louise Salé que justement, les champions ne pensent pas qu'à la compétition. Plus de 140 athlètes, dont Mikaela Shiffrin, ont demandé dans une lettre à la Fédération internationale de ski de faire des efforts en faveur de l'environnement.
Notre sport est en danger, ont écrit les athlètes. Cette année, en effet, beaucoup de leurs compétitions ont été annulées. Elles se déroulaient à la fin de l'automne ou au début de l'hiver, lors de mois faiblement enneigés. Pour eux, le calendrier des courses doit donc être repensé. Michel Vion est secrétaire général de la Fédération internationale de ski.
On doit peut-être décaler dans le temps cette compétition, aller chercher la neige là où elle est, pas la faire artificiellement.
Mais pour l'ancien champion olympique de ski, Franck Picard, ses efforts sont trop timides, en particulier sur la réduction de l'empreinte carbone des compétitions.
Clairement, aujourd'hui, elle n'en fait pas assez. Les calendriers qui vous font débuter aux États-Unis, puis revenir en Europe, puis repartir aux États-Unis, il faut le changer à tout prix pour que l'on soit encore dans le respect de notre sport, de ce qu'en pensent les gens. On peut aussi parler du matériel. Il y a une évolution dramatique du nombre de matériels utilisés. Les skieurs sont de plus en plus performants. Il faut restreindre le nombre de paires par skieur.
La Fédération internationale de ski assure pourtant travailler à la réduction d'au moins 50% de ses émissions de CO2 d'ici 2030.
Les explications de Louise Salé pour Europe 1. Bonjour Axel May.
Bonjour.
Alors vous êtes à Méribel où il n'y a pas de problème d'enneigement évidemment aujourd'hui. Et il n'y a pas eu non plus de surprise. Mikaela Shiffrin, elle est déjà bien placée. Hein.
Oui, on va en parler dans un instant. Il n'y a pas eu de surprise non plus concernant les Françaises qui vont repartir sans médaille de ces championnats du monde. Et pourtant, vous allez l'entendre, le public a donné de la voix lorsqu'elles ont dévalé la piste du Roc de Fer ce matin entre les piquets. Écoutez donc cette ambiance au passage de chacune des quatre tricolores engagées ce matin. La meilleure Française de cette première manche de slalom, c'est la toute jeune Marie Lamure, à 21 ans, la championne du monde junior du combiné, 19e de la première manche de slalom, peut espérer un top 10 cet après-midi.
Et donc, qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. Donc aller jouer, produire un ski sans rien inventer, parce qu'on n'invente rien le jour de la course, forcément. Et jouer, me faire plaisir, et on verra bien jusqu'où ça me mène. Voilà. Si on ne prend pas de risque, on ne risque pas de faire un bon résultat. Donc voilà.
Alors un petit mot aussi pour Nastasia Noens, Nastasia qui disputait ce matin sa dernière course à 34 ans en championnat du monde. Du côté des favorites, résultat là aussi sans surprise, Michaela Schifrin a dominé la première manche, un 19 centièmes d'avance sur sa première poursuivante. Et j'ai dit, vous avez dit aussi d'ailleurs, Lénaïque, résultat sans surprise parce que la skieuse du Colorado est forte partout et encore plus en slalom, discipline où elle a déjà gagné 4 fois le titre mondial. Vers 14h15, on saura si Schifrin, the star, a son 5e titre de slalom en poche.
Et vous serez là évidemment pour nous raconter tout ça. Merci Axel May, envoyé spécial d'Europe 1 à Méribel. L'actualité sportive, c'est également la 24e journée de Ligue 1. Premier match hier est déjà une surprise. C'est Lyon qui a rechuté à Auxerre 2-1. Les Lyonnais qui pensaient avoir fait le plus dur, ils menaient à la mi-temps, mais c'était sans compter sur le réveil des Bourguignons dans un stade de la Baie des Champs en fusion. Des Auxerrois qui signent leur toute première victoire depuis le 30 octobre dernier et qui se mettent surtout à croire au maintien. Écoutez leur entraîneur Christophe Pélissier au micro Europe 1 de Martin Lange.
Je tire un grand coup de chapeau aux garçons parce que faire un match de ce niveau, faire un match de cette intensité quand on a si peu de confiance, parce que quand on est à la place qui est la nôtre au championnat, c'est dur d'avoir cette confiance-là. Donc bravo à eux.
Christophe Pélissier, entraîneur de l'AJ Auxerre. La suite de cette 24e journée de Ligue 1, c'est Nice-Reims à 17h et Strasbourg-Angers à 21h, à suivre évidemment en direct et en intégralité sur Europe 1. Ils forment le couple d'amoureux le plus célèbre au monde, Roméo et Juliette. Le mythe de Shakespeare se joue dans une version totalement inédite. C'est au public de choisir qui interprétera les amoureux maudits. La pièce a cartonné à Avignon et se joue au moment au Lucernaire à Paris. Et Marie Jiquel a fait son choix.
5 minutes et 2 secondes, c'est le temps dont vous disposez pour faire votre casting.
Quel comédien enfilera le blouson de Roméo ou la cape en dentelle de Juliette? Au tout début de la pièce, la troupe se tient face au public qui fait son choix en pointant du doigt.
Il y a combien de combinaisons possibles?
5040.
Romain Chesnel, le co-metteur en scène.
On tente au maximum que notre représentation du soir soit unique. Chaque jour, on peut revenir, ce sera un autre casting avec de nouvelles idées.
Alors, Montaigu ou Capulet, les comédiens ont quelques secondes pour s'approprier leur personnage.
Oh, Roméo, renie ton père et refuse ton nom.
Caroline de Touchet, commetteuse en scène et comédienne.
En école de théâtre, quand tu as une certaine apparence, tu es prédéfinie à jouer quelque chose. Et donc, quand tu es une femme qui fait plus de 90 kilos, tu ne peux jouer que les servantes. Moi, c'est un peu une revanche.
Roméo et Juliette ne sont pas les rôles les plus convoités par la troupe qui préfère jouer frère Laurent, l'ami de Roméo.
Parce qu'il fait pas grand chose. Enfin, il joue, mais il a pas de combat. C'est un personnage qui aide les autres.
Le rôle le plus reposant.
Marie Jiquel du service culture d'Europe 1 et ce Roméo et Juliette est à découvrir au Lucernaire jusqu'au 16 avril prochain. Il nous reste à voir le temps à 1h05 sur Europe 1. Avec vous Valérie Darmon, le ciel est contrasté entre nord et sud.
Effectivement les naïcs avec ce ciel qui reste très nuageux et humide des Hauts-de-France au Grand Est avec un vent d'ouest à 60 km/h sur la côte d'Opale où le temps est un petit peu bruineux tout comme dans les Ardennes. Les éclaircies tentent en revanche de percer sur le Finistère, les Yvelines et les Vosges ainsi que le Jura. Dans le sud-ouest, après les brouillards nombreux de ce matin, le soleil revient, rendant l'ambiance véritablement printanière. Beau fixe aussi dans le sud-est et sur la façade est. Les températures qui sont exceptionnellement douces, avec 12 degrés, annoncées à Brest cet après-midi, ainsi qu'à Lille, 13 à Troyes et La Rochelle, 15 degrés à Dijon et à Annecy, 16 à Chambéry et Montpellier, 17 à Embrun et Marseille, 20 degrés à Cahors et Avignon et 21 à Carcassonne, à Paris, 14 degrés. Et demain, on va connaître une faible perturbation qui va traverser une grande moitié nord, qui va s'accompagner de petites pluies faibles entre l'Alsace, les Ardennes, la Bourgogne, et de belles éclaircies vont revenir cette fois dans le nord-ouest jusqu'en Île-de-France dans l'après-midi.
Merci beaucoup Valérie Darmon, vous restez bien sur Europe 1, il est midi. 12h56. D'ici quelques minutes, vous avez rendez-vous, vous le savez, avec Isabelle Morizet qui reçoit Michel Boujna. Et juste avant, à 13h, je vous retrouve pour les informations. À tout de suite.